Il manque de s'entraver dans quelque chose en entrant dans le studio et il rattrape de justesse la bouteille de champagne qui allait s'écraser au sol. Quand il se stabilise, il aperçoit la boule de poils blancs et roux à ses pieds, responsable de l'incident. Johan crie
« Poc, tu n'es pas sage !»
Puis s'adressant à lui, elle s'empresse d'ajouter
« Je vais le descendre, j'allais le faire avant que tu n'arrives. »
Mais Émile se baisse auprès de Poc. Il ne lui a pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à maintenant. Pour lui, ça n'était que la peluche de Johan, quelque chose auquel elle tenait. Mais c'est vrai qu'il a une bonne bouille, avec ses petits yeux qui réclament des caresses. Johan s'accroupit auprès de lui et soulève Poc dans ses bras.
« Allez, oust, pourquoi tu te mets toujours dans nos pieds ?»
Elle est tellement mignonne à essayer d'avoir l'air autoritaire. Elle manque cruellement de conviction. Elle n'a aucune envie de disputer Poc, et ça se voit. « Laisse-le, » dit Émile.
« Quoi ?»«
Il peut passer la soirée avec nous, il ne dérange pas. » Elle a du mal à masquer son étonnement.
« Il vient presque de te faire tomber. »
« Je ferai attention maintenant, je regarderai où je marche. »
« Je sais bien que tu ne l'aimes pas beaucoup. Je peux le descendre, ça ne me dérange pas. »«
Ce n'est pas... J'ai jamais dit que je l'aimais pas, » se défend-il maladroitement.
« Mais... » Elle semble perdue. « Tu refuses de le laisser ici ?»«
C'est juste pour la nuit. » Je sais que les chatons sont joueurs et j'ai pas envie qu'ils me réveillent toutes les deux heures en me sautant sur le ventre ou en me mordant les pieds.
Ils se font face, Poc bien à l'abri dans les bras de Johan.
C'est juste pour ça ?
Demande-t-elle, incrédule.
Bien sûr que c'est juste pour ça.
J'étais persuadée que tu l'aimais pas, que tu n'en voulais pas ici.
Bien sûr que si, j'ai...
Je trouve ça plutôt mignon de le voir toujours collé à toi.
Johan détourne le regard, gêné.
Mais tu me demandais sans cesse si je m'étais occupé des affiches, si je lui avais trouvé une famille. Je pensais que t'avais hâte que je m'en débarrasse.
Il se met à sourire. Johan conserve Poc pressé contre son cœur, comme pour le protéger d'un danger.
Ça m'amusait de te voir si gêné. Je savais que tu pourrais jamais le laisser partir.
Elle hésite entre sourire à son tour et froncer les sourcils.
Mais alors...
Ouais.
Tu envisages...
Oui.
Tu envisages qu'on puisse éventuellement le garder ?
Elle a les yeux arrondis, la bouche entrouverte.
Ouais, éventuellement.
Dans le camping-car, quand on repartira ?
Il hausse les épaules.
Ça peut se faire, non ?
C'est vrai ?
Il acquiesce. Oui, c'est vrai. Ça y est, c'est là. C'est le moment où ça se produit, le moment qu'il guettait. Le front qui se lisse de nouveau, les yeux qui se plissent, la bouche qui frémit. Elle peine à masquer son bonheur.
C'est super, Émile. C'est... Merci.
Il veut devenir un bon compagnon pour elle. Elle le mérite. Il la regarde manger en silence. C'est aussi quelque chose qu'il apprécie chez Johan. Elle ne se sent pas toujours obligée de parler et de meubler le silence. Elle sait l'apprécier.
« Quelle est la suite ? » demande-t-il quand il la voit se lever.
« Je sais pas si ça te plaira. »
« Arrête de toujours dire ça. »
« C'est une tarte sucrée salée. »
« Eh ben, j'aime bien le sucré salé. Qu'est-ce que c'est ?»
Elle dépose le plat à tarte devant eux. C'est encore fumant et ça sent divinement bon.
Une tarte aux oignons caramélisés, aux cranberries et aux chèvres frais.
Elle rougit en surprenant son regard étonné et admiratif.
Arrête de me fixer comme ça.
J'allais dire, je vais finir par t'épouser, mais c'est déjà fait.
La plaisanterie ne prend pas vraiment. Johan a un petit sourire timide, pas plus.
Tu aimes ?
J'adore.
Ils continuent de manger au son de leur fourchette et du morceau de jazz qui emplit le studio. Les bougies procurent une lumière vacillante et tamisée. Poc s'est couché au pied de Johan. Canaille le regarde de loin.
« Comment c'était le festival cet après-midi ? » demande Émile.
« Oh, très bien. C'était le dernier jour. Les artistes ont tous exposé devant l'église Saint-Vincent. »«
Cool. »
Le silence retombe et ils reprennent leur mastication.
Tu as croisé Myrtille en rentrant ?
Non. Et toi ?
Moi non plus.
Je crois qu'elle se cache.
Il acquiesce et boit une gorgée d'eau.
Elle veut nous laisser profiter de notre soirée de noces tranquillement ? Elle a dû se cacher dans un coin de son salon.
La pauvre.
Émile termine de débarrasser la table pendant que Johan amène deux coupelles à dessert, pleines d'une mousse blanche et parsemée de framboises. Il reste une troisième coupelle sur le plan de travail.
Et celle-là, on la prend pas ? Interroge-t-il.
Non, celle-ci est pour Myrtille.
Elle a drôlement de la chance de t'avoir.
Elle secoue la tête.
Non, c'est nous qui avons de la chance de l'avoir.
C'est vrai. La robe de mariée qui se balance sur son cintre à l'autre bout de la pièce en témoigne. Ce n'est pas rien, ça non plus.
Elle me manquera,
ajoute Johan.
Ouais, je pensais pas, mais à moi aussi.
On va devoir repartir maintenant que le mariage a eu lieu, non ?
Il sent qu'elle n'en a pas vraiment envie, pas tout de suite. Et lui non plus. Ils se sont habitués à ce quotidien à Eus, au studio, aux murs de pierre apparente, à la cour intérieure, au thé sous le platane, à la présence de Myrtille, aux parties de Scrabble nocturne, aux ruelles pavées. Ils ne sont pas prêts à repartir tout de suite.
Tu sais, rien ne presse. On peut se laisser quelque temps.
Il voit le soulagement sur son visage inquiet. Elle espérait ce genre de réponse. Elle acquiesce.
Oui, pas besoin de se précipiter.
Ils sont bien contents d'être sur la même longueur d'onde.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Interroge Émile en plantant sa cuillère dans la coupelle.
Un tiramisu aux framboises et au chocolat blanc.
Il l'avale si vite qu'elle ne prend même pas la peine de lui demander s'il aime. Il sort des verres à vin qu'il a dénichés dans un des placards de la kitchenette et ouvre la bouteille de champagne.
Ça nous a été offert par Annie et son mari, annonce-t-il.
Ils sont drôlement gentils.
Il remplit leur verre de champagne pendant que Johan installe sur la table un plateau de Monopoly qu'elle a déniché dans le salon de Myrtille quelques jours plus tôt.
Je propose une nouvelle règle,
déclare-t-il en prenant place en face d'elle.
Laquelle ?
Comme c'est notre soirée de noces, on pourrait personnaliser un peu le jeu et en profiter pour apprendre des trucs l'un sur l'autre.
Il la sent hésitante. Il poursuit quand même.
Celui qui va en prison doit répondre à une question pour pouvoir en sortir. Qu'est-ce que t'en dis ?
Elle prend quelques secondes pour répondre. Elle doit évaluer les probabilités qu'elle a de se retrouver en mauvaise posture.
Allez, rien de méchant, insiste-t-il. C'est juste pour apprendre à se connaître davantage. Comme ces stupides jeux d'action ou vérité.
Il se demande si elle a déjà joué à ce genre de jeu d'adolescent au fin fond de son village. Peut-être pas.
D'accord,
finit-elle par dire. Ils commencent à jouer tout en sirotant le champagne, qui est plutôt bon.
Tu aimes ? Demande Émile à Johan.
Ouais, c'est frais.
Elle s'occupe de la banque. C'est elle qui compte et redistribue les billets. C'est un jeu ancien. Les billets sont encore en francs. La voix de Ray Charles a laissé place à celle de Louis Armstrong. Johan murmure les paroles d'Only You. Visiblement, elle les connaît par cœur.
« Je savais pas que tu aimais le jazz », dit-il, surpris.
Elle répond en continuant de classer les billets.
« Mon père était un grand fan de Miles Davis, entre autres. J'ai grandi sur des accords de jazz. »
« Tu es surprenante. »
Elle relève la tête, surprise, et cesse de ranger les billets.
« Quoi ?»
Il ne sait pas s'il a dit ça à cause des bulles de champagne qui lui montent à la tête. Avec cette canicule, deux verres pourraient le rendre totalement ivre.
« Non, c'est que... t'es un personnage surprenant. »«
En quoi ?»«
Je sais pas.
Ce mystère que tu gardes autour de ta vie, ta façon d'être, ton silence... » Ton calme. Comme si tu essayais de te faire oublier. Et puis d'un coup, tu peux réciter une citation ou chanter un air de jazz vieux comme le monde.
Il sourit devant son air étonné.
C'est vrai, c'est un sacré personnage. Tout ce qu'il vient de dire est vrai. Et encore, il n'a pas parlé de son chapeau noir, de ses vêtements amples, de son détachement total parfois, de ses remèdes de grand-mère.
Je ne suis que le reflet de mon père, dit-elle dans un haussement d'épaule.
Il sourit un peu tristement, car elle l'a perdu, ce père qui devait être son modèle. C'est peut-être pour ça qu'elle ne porte plus que du noir.
Ça devait être une chouette personne.
Il l'était.
Elle lui tend un tas de billets pour chasser cet instant de lourdeur.
Tiens, voilà ce que tu dois mettre au milieu. Ça va dans la caisse de communauté.
Ils reprennent leur partie en silence. C'est Émile qui se retrouve le premier en prison. Johan réfléchit longuement à la question à lui poser.
Je ne sais,
dit-elle embarrassée.
Il n'y a pas quelque chose que tu aimerais savoir mais que t'as jamais osé demander ?
Elle hésite encore un instant, pianote de ses doigts sur la table, puis demande d'une voix claire.
Tu es parti où cet après-midi après la cérémonie ?
Ça n'était clairement pas la question à laquelle il s'attendait. Il marque une courte indécision avant de répondre.
Je suis allé jusqu'à Côme et je me suis assis dans l'église. Ensuite, je suis rentré.
Elle a un hochement de tête un peu grave. Il ne lui a pas dit pour le mail à Laura. Elle n'y est pour rien dans tout ça. Elle a juste voulu rendre service. Elle n'a jamais prétendu prendre la place de Laura. Mais il ne veut pas courir le risque de la froisser.
D'accord, tu peux sortir de prison.
Il relance le dé. Quelques minutes plus tard, c'est Johan qui se retrouve sur la case prison. Et il la voit s'agiter sur sa chaise, mal à l'aise. Il y a quelque chose qu'il aimerait beaucoup savoir. Pourquoi ne porte-t-elle que du noir, la couleur du deuil ? Mais il ne veut pas l'attrister, l'obliger à parler de son père, recréer de la douleur. Alors il opte pour une question qu'il pense être plus légère.
Il y a un truc que j'ai remarqué.
Oui ?
Quand tu t'assois dehors le soir pour méditer ou bien juste pour prendre l'air, il y a ce truc que tu fais toujours.
Quelle chose ?
Tu lèves les yeux au ciel et tu restes pendant des heures le regard en l'air. Pourquoi tu fais ça ?
Il se rend compte un peu trop tard qu'il vient peut-être de gaffer, que la question sur les vêtements noirs était peut-être préférable. Il voit le trouble sur son visage, l'effort qu'elle fait pour maintenir une expression neutre et détachée, mais il voit les coins de sa bouche tressauter.
Johan, si tu veux pas, ajoute-t-il précipitamment.
Mais elle est déjà en train de répondre.
J'ai connu un petit garçon qui passait des heures à regarder le ciel. Un petit Tom. C'était un petit garçon différent des autres. Il était en permanence dans son monde. On avait du mal à l'atteindre.
Elle a un sourire triste. Il se rend compte que ses yeux s'emplissent de larmes. Pourtant, elle continue.
C'était un petit garçon tout à fait passionnant. Il passait son temps à peindre.
Elle est obligée de s'arrêter un instant pour déglutir.
À peindre du bleu. Il remplissait des pages et des pages de bleu, rien d'autre que du bleu. On ne savait pas si c'était le ciel ou la mer qu'il dessinait. Il ne le disait pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il froissait tous ses dessins. À peine il les terminait, qu'il les froissait, mécontent, comme s'il était déçu de n'avoir pas trouvé la bonne teinte, le bon mélange de bleu. Alors il repartait dans la cour et il recommençait à observer le ciel pendant des heures. Et le lendemain, on pouvait être sûr qu'il referait une nouvelle peinture de bleu.
C'est troublant de la voir comme ça, au bord des larmes mais souriant, parlant vite, parlant avec passion et émotion. Elle n'a jamais été comme ça. Il ne peut plus l'arrêter.
Les professeurs l'avaient nommé Tom Blue. Ils avaient interdit aux autres enfants d'utiliser la peinture bleue, sur ma demande. Elle lui était réservée. C'était la peinture de Tom Blue.
Elle a un petit rire nerveux chargé d'émotion. Il ne l'a jamais vue rire avec autant de sincérité. Elle devait sacrément l'aimer, ce petit garçon. Il interroge, touché lui aussi.
Il était dans l'école où tu travaillais ?
Elle hoche la tête avec émotion.
Ouais, il était dans l'école, mais il est parti.
Ça fait longtemps ?
Un peu, oui.
Elle boit une longue gorgée de champagne. Elle est comme ça, Johan. Elle recueille les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui sont différents, ceux qui sont enfermés dans leur monde ou ceux qu'on risque de tuer. Le petit homme Blue, Poc, il avait raison tout à l'heure, elle est surprenante.
À
Alors tu observes le ciel à ton tour.
Elle acquiesce. Les larmes ont disparu au fond de ses yeux.
Ouais, je me demande si je trouverai la bonne combinaison de bleu un jour. Si je pourrais la peindre pour lui et la lui donner le jour où je le retrouverai.
Il boit une gorgée de champagne lui aussi, pour masquer son émotion.
Il en sera très content, dit-il.
Tu penses ?
J'en suis certain.
Ils échangent un sourire tremblotant. Ils viennent de partager un moment intime tous les deux.
Émile le sent, et il est certain que Johan le sent aussi. Tu sais où il est parti ? Tu sais comment tu feras pour le retrouver ?
Elle déglutit.
J'ai une petite idée.
Elle récupère les dés sur le plateau et demande, se raclant la gorge.
Je peux rejouer ?
Bien sûr, tu peux lancer le dé.
Ils évitent la prison pendant tout le reste du jeu, pas vraiment volontairement, mais les dés ont décidé de les laisser tranquilles pour le reste de la soirée. Il est minuit quand ils débarrassent la table et déplient le canapé. Ils éteignent la lumière et Émile ne dit rien quand il sent Poc et Canaille sauter sur le lit et venir s'installer à leurs pieds. Il songe que c'est jour de fête et qu'il peut bien faire une exception ce soir.
« Bonne nuit, » murmure-t-il à Johan.
« Bonne nuit. »
C'était une soirée sympa.
Je suis d'accord.
Le silence retombe, à peine troublé par les ronronnements de plaisir de Poc. Il doit certainement être en train de se faire gratter le ventre par Johan dans le noir. Il songe au petit homme bleu qui recouvrait des feuilles de peinture bleue. Et il songe à lui-même. Lui aussi, elle l'a recueilli. Elle a décidé de l'accompagner dans sa dernière escapade et de lui offrir sa liberté en l'épousant. Il fait partie du lot. Tom Blue, Poc et lui. Elle a décidé de leur donner une seconde chance, à tous les trois. Elle est comme cette petite église qui se dresse fièrement, intacte et forte, au milieu des ruines de Côme. Elle est comme ça, Johan, un symbole d'espoir au cœur d'une terre de désolation.